Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Cette idée de la vie est magique. Elle suppose la présence d'un feu dans toutes les manifestations de la pensée humaine. Et cette image de la pensée qui prend feu, il nous semble à tous aujourd'hui qu'elle est contenue dans le théâtre. Et nous croyons que le théâtre n'est fait que pour la manifester. Nous sommes nombreux à croire en France que seul le théâtre peut montrer la vraie réalité. Écrit Antonin Artaud dans ses Messages révolutionnaires, qui regroupe une série de textes théoriques, d'articles et de conférences rédigés pendant ou suite à un séjour mythique au Mexique. En 1936, l'auteur du Pesner ou du Théâtre de la cruauté a 40 ans. Il est venu pour étudier l'art théâtral en s'intéressant par-dessus tout à l'art indigène. Mais il va aussi se rendre, afin de se sevrer de sa dépendance à l'opium, dans de bien curieux canyons, une Sierra Tarahumara, où des forces dorment dans la terre. Muchachos y muchachas, buena tarde! Soy Ricardo Alegría, mieux connu sous le nom de Richard Guettet. Bienvenidos dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h. Nous sommes aujourd'hui en public pour une émission naturellement exceptionnelle, au cours de laquelle la vraie réalité risque fort de nous être montrée, puisque je vous parle depuis la scène d'un théâtre, celle du nouveau théâtre de Montreuil, où cette émission a été invitée à participer à un vaste cycle de spectacles, de débats, de concerts ou de performances lancé le 28 février pour mieux comprendre le Mexique d'hier et d'aujourd'hui.
Que onda, n'est-ce pas ?
Un serpent à plumes sur l'épaule, entouré d'une multitude de petits cactus et de bougies solennelles, je suis ravi de recevoir le trio Texcoco. Volcan déclamatoire d'adaptation musicale d'Antonin Artaud, de Malcolm Lowry, de Laura Esquivel ou d'Octavio Paz. Deux musiciens et un comédien, Flavien Ramel, Guillaume Rouillard et Alexandre Palu, vont nous interpréter en live plusieurs extraits de leur spectacle Mexica, riche en tequila mélancolique, comme en champignons aphrodisiaques, voire fort d'un poème ancestral, vieux de 700 ans, transfiguré raga, comme d'une pierre de soleil disco, voire encore d'un crapaud ensorcelé. Une lecture inédite des écrits de Fernanda Melchor, créée spécialement pour ce programme. Comme l'a noté Artaud dans ses hallucinantes montagnes, ce fut à ce moment-là qu'on leur donna le sang vivant servi dans des coupes, et la danse recommença à son début. Elle devait durer toute la nuit. Bonjour Tex Coco.
Bonjour Ricardo.
Alexandre, bonjour Alexandre. Je vais laisser vos deux camarades nous rejoindre. Merci pour ce très beau générique introductif déjà. Alexandre, Flavien, Guillaume, je crois savoir que vous êtes originaire d'une Sierra mystérieuse et alchimique, la Seine-et-Marne. Tex Coco est le nom de ce projet littéraire et musical que vous avez monté il y a environ un an dans un labyrinthe souterrain de Pantin et que vous faites vivre de manière fiévreuse dans des bars ou des festivals. Tex Coco, c'est aussi le nom de l'ancienne capitale culturelle du Mexique, fondée au XIVe siècle, du temps des Aztèques, située à une trentaine de kilomètres à l'est de Mexico, où l'on pouvait prendre des cours de chant ou de poésie. Le point de départ de votre spectacle Mexica, qui présente bien des similitudes avec cette émission, c'est un essai de L'Ecclésio, Le rêve mexicain ou la pensée interrompue, publié en 1988. Le futur prix Nobel s'y interrogeait sur la brutale disparition des cultures et des civilisations indiennes au XVIe siècle, et plus particulièrement sur la fin de la civilisation mexica causée par les conquistadors espagnols. Qu'est-ce que cette lecture a déclenché chez vous, Alexandre Palu ? Est-ce que c'était l'envie de ressusciter ce Mexique mythologique ?
De le ressusciter ou de l'inventer, en fait. Ça a été un choc littéraire avec L'Ecclésio, bien sûr, mais aussi une ouverture vers toute une bibliographie, quoi. Il m'a fait découvrir Rulfo, Paz, tous les auteurs, en fait, du corpus, donc, qu'on présente musicalement. Et donc c'est comme un labyrinthe, ouais. Et je dis réinventer parce que je trouve que c'est un pays qui est propice à l'invention et à la superposition de couches comme séculaires, quoi. C'est un pays millénaire avec sans doute des choses qui sont encore enfouies dans son sol, qu'on n'a pas encore fini de trouver, une magie qui ressort par-ci, par-là, et qui ressort en Seine-et-Marne, ouais, avec nous.
Quand vous êtes rendu au Mexique, vous, Alexandre, ou Flavien, ou Guillaume ?
C'est plutôt un voyage intérieur qu'un vrai voyage, puisqu'on ne s'est jamais rendu au Mexique.
Aucun des trois est allé au Mexique, donc c'est un fantasme pur, du coup.
C'est même une invitation à tous à nous inviter au Mexique.
Bien sûr, l'Alliance française qui nous écoute naturellement de Mexico vous donnera le... Oui, alors justement, Flavien Ramel et Guillaume Rouillard, vous êtes respectivement batteur et trompettiste de Tex Coco, en charge également l'un et l'autre de multiples machines. Vous intervenez par ailleurs dans des fanfares rail ou des cabarets berlinois. Vous avez déjà adapté, me semble-t-il, avec Alexandre, la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Pour ce projet-là, quelles consignes musicales vous étiez-vous donné ? Qu'est-ce qu'il faut faire, ou voire même ne pas faire, dans l'adaptation de ces textes mexicanos ?
Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ? Il n'y a pas de contrainte réelle. La contrainte que moi je me suis posée pour composer la musique, c'était d'utiliser les outils qui me plaisaient à ce moment-là d'utiliser, et de les mettre en résonance avec la littérature. Donc vraiment, de se plonger dans le texte et d'en sortir des émotions musicales. Mais c'est très ouvert. Voilà. L'objectif n'était pas de faire un projet folklorique, parce qu'on ne vient pas de là, et encore une fois, de Seine-et-Marne. Donc évidemment, donc voilà.
Guillaume ?
Oui, c'est à peu près ça. On a voulu... avant tout, éviter le folklore, quoi. C'est un peu l'idée de première. Et puis, après, c'est suivant les lectures, en effet. C'est les thèmes qui viennent comme ça, en lisant quelques phrases.
Donc, je précise qu'aucun orchestre de mariachi n'apparaîtra pendant cette émission, à la déception peut-être de certains membres du public. Nous allons vous écouter nous transmettre un montage de plusieurs fragments de l'essai d'Antonin Artaud sur les Tarahumaras, basé donc sur un possible voyage en solitaire du dramaturge surréaliste dans la Sierra, où les lignes de montagne dessinent des hommes nus penchés à une grande fenêtre avec sur le nombril un triangle éclatant qui brille. Au cœur de ce livre de révélation, à lui-même, Antonin Artaud décrit de manière assez saisissante une prise de peyote, ce légendaire petit cactus fleuri aux propriétés psychotropes. Mais avant cela, laissez-moi vous offrir quelques précisions ethnologiques.
Nova Bookbox, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
Il y a au nord du Mexique, à 48 heures de Mexico, une race de purs indiens rouges. les Tarahumara. 40 000 hommes vivent là, dans un état comme avant le déluge. Ils sont un défi à ce monde où l'on ne parle tant de progrès que parce que, sans doute, on désespère de progresser. Cette race, qui devrait être physiquement dégénérée, résiste depuis 400 ans à tout ce qui est venu l'attaquer. La civilisation, le métissage, la guerre, l'hiver, les bêtes, les tempêtes et la forêt. Elle vit nue, l'hiver, dans ces montagnes obstruées de neige, au mépris de toutes les théories médicales. Le communisme existe chez elle dans un sentiment de solidarité spontanée. Si incroyable que cela puisse paraître, les Indiens Tarahumara vivent comme s'ils étaient déjà morts. Ils ne voient pas la réalité et tirent des forces magiques du mépris qu'ils ont pour la civilisation. Ils viennent quelquefois dans les villes voir, disent-ils, voir comment sont les hommes qui se sont trompés. Ils viennent avec femmes et enfants, à travers d'impossibles trajets qu'aucun animal n'oserait tenter. Aller voir, aller droit sur leur route, à travers les torrents, la terre qui s'éboule, les taillis épais, les escaliers de roche, les murs à pic, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont su conserver la force de gravitation naturelle des premiers hommes. Quand les Tarahumara descendent dans les villes, ils mendient. Ils s'arrêtent devant la porte des maisons et se mettent de profil avec l'air de dire « Étant riche, tu es un chien, je vaux mieux que toi, je crache sur toi !» Si on leur donne, ils ne disent pas merci, car donner à celui qui n'a rien n'est pas un devoir. En obéissant à la loi, c'est à toi-même que tu fais du bien. Je n'ai donc pas à te remercier. Cette loi de réciprocité physique que nous appelons la charité et que le monde blanc a trahi, les Indiens la pratiquent naturellement et sans aucune pitié. Après avoir mangé, le mendiant s'en va sans remercier ni regarder personne.
La vie des Tarahumaras tourne autour du rite érotique du peyotl. Sa racine est hermaphrodite. Elle porte la forme d'un sexe d'homme et de femme rassemblés. La force de ce rythme en a paru symbolisée par une râpe. Une espèce de bois recourbé, couvert d'entailles sur lequel, pendant des nuits entières, les sorciers du peyotl font grincer rythmiquement des bâtonnets. Le prêtre me demanda si je voulais goûter. Il m'en versa dans la main gauche une quantité du volume d'une amande verte, d'un petit pois. Suffisante, dit-il, pour revoir Dieu deux ou trois fois. Une vision qui me frappa fut déclarée authentique par le prêtre et sa famille, mais on n'y parvient pas sans avoir traversé un déchirement et une angoisse, comme retourner reverser, restituer de l'autre côté des choses. On ne sent plus le corps que l'on vient de quitter et qui vous assurait dans ses limites. En revanche, On se sent beaucoup plus heureux d'appartenir à l'illimité, l'infini, et qu'on va le voir. On se sent comme dans une onde gazeuse qui dégage de toutes parts un incessant crépitement. Des choses sorties comme de ce qui était votre rate, votre foie, votre cœur ou vos poumons éclatent. Dans cette atmosphère qui semble appeler à elle les choses et leur commander de se rassembler. Ce qui sortait de ma rate ou de mon foie avait la forme des lettres d'un très antique et mystérieux alphabet mastiqué par une énorme bouche, mais épouvantablement refoulée, orgueilleuse, illisible, jalouse de son invincibilité. Et ces signes étaient balayés en tous sens dans l'espace pendant qu'il me parut que je montais, mais pas tout seul, aidé par une force insolite, mais beaucoup plus libre que lorsque sur la terre, j'étais seul. À un moment, quelque chose comme un vent se leva et les espaces reculèrent. De ma rate, un vide immense se creusa qui se peignit en cris et roses comme la rive de la mer. Au fond de ce vide apparut la forme d'une racine échouée, une sorte de chi qu'aurait eu à son sommet trois branches surmontées d'un E triste et brillant comme un œil. Des flammes sortirent de l'oreille gauche de chi et passant par derrière lui, semblèrent pousser toutes les choses du côté de mon foie, mais très au-delà de lui. Je n'en vis pas plus, et tout s'évanouit, ou ce fut moi qui m'évanouis en revenant à la réalité ordinaire. J'avais vu, paraît-il, l'esprit même de Shigori. Et je crois que cela devait objectivement correspondre à une représentation transcendantale peinte des réalités dernières et les plus hautes. Le peyote ramène le moi à ses sources vraies. Sorti d'un état de vision pareil, on ne peut plus, comme avant, confondre le mensonge avec la vérité. On a vu d'où l'on vient et qui l'on est. Et on ne doute plus de ce que l'on est. De jour en jour, un sentiment de sécurité et de certitude interne s'établit lentement mais sûrement en moi. On ne peut pas reprocher à un homme qui fut comme moi enfermé depuis 6 ans dans un asile d'aliénés et qui depuis 3 ans ne mange plus à sa faim un fléchissement au culte de la volonté. Qu'on ne me passe plus à l'électrochoc. Assez, assez et assez avec ce traumatisme de punition. Chaque application d'électrochoc m'a plongé dans une terreur de plusieurs heures. Je savais qu'à chaque fois, je perdrais conscience et que je me verrais pendant une journée entière étouffé au milieu de moi, sans parvenir à me reconnaître, sachant parfaitement que j'étais quelque part. Mais le diable, c'est où ? Mais le diable, c'est où ? Comme si j'étais mort. Rai, da ganga. Nakum, akum, na, na, kum, bono, ra, da, kanga, nakum, akum, na, na, kum, bono. Nous sommes loin avec tout cela de la guérison par le peyote. Le peyote fixe la conscience et l'empêche de s'égarer. Les prêtres mexicains m'ont montré sur le foie le point exact où Shiguri produit cette concrétion synthétique qui maintient durablement le sentiment et le désir du vrai et lui donne la force de s'y livrer en rejetant automatiquement le reste. C'est comme le squelette du devant qui revient, m'ont dit les Tarahumaras, du rite sombre, la nuit qui marche sur la nuit. J'ai pris du peyote au Mexique dans la montagne et j'en ai eu un paquet qui m'a fait 2 ou 3 jours chez les Tarahumaras. J'ai pensé alors à ce moment-là vivre les 3 jours les plus heureux de mon existence. J'avais cessé de m'ennuyer, de chercher à ma vie une raison, et j'avais cessé d'avoir à porter mon corps. Je compris que j'inventais la vie, que c'était ma fonction et ma raison d'être, et que je m'ennuyais quand je n'avais plus d'imagination. Et le peyote m'en donnait, 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 et le peyote m'en donnait. S'avança et fit sortir le peyote de moi d'un coup. J'en fis de la charpie réelle et le cadavre d'un homme fut déchiqueté et trouvé déchiqueté quelque part. Sana tama 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 ba, sana tapan 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 tama tama ba. Étant donné que ce monde-ci n'est pas l'inverse de l'autre, et encore moins sa moitié, ce monde est aussi une machinerie réelle dont j'ai les leviers de commandement. C'est une usine vraie dont la clé est l'humour né.
Le rite érotique du peyote tiré des Tarahumara d'Antonin Artaud, adapté par le trio Tex Coco en live sur Radio Nova en direct du nouveau théâtre de Montreuil. Est-ce que vous pouvez les applaudir un peu plus chaleureusement, s'il vous plaît ? Il est important de préciser que ce texte a été écrit par Artaud à l'asile de Rodez après 7 ans d'internement, dont 3 de mise au secret, avec, dit-il, empoisonnement journalier et castration de tout. C'est le texte d'un traumatisé. Alors, pour se détendre, écoutons maintenant la cadence syncopée de Sophie Fustek, franco-vénézuélienne surnommée la Chica de Belleville, que nous aimons très fort à Nova. Sur son premier album Cambio, sorti l'année dernière, elle livrait les fruits d'un séjour au Mexique, à Mexico et à Cholula. Voici sa chanson Ratas. On se retrouve juste après, tout près d'un périlleux volcan.
En su tierra rica y generosa, pero les aseguro. ciclo de destrucción, desorden, hambre y caos. Sin vergüenza no me lavamos las manos después de comer.
Comme dirait Bart Simpson, aïe caramba! Nous sommes toujours au Nouveau Théâtre de Montreuil, encapsulés dans la programmation de leur temps fort consacré au Mexique depuis le 28 février, en compagnie du trio Texcoco, composé des Franciliens Flavien Ramel, Guillaume Rouillard et Alexandre Palu. Vous allez maintenant, messieurs, nous proposer une adaptation musicale d'un extrait d'Au-dessous du volcan, le chef-d'œuvre largement autobiographique de l'écrivain britannique Malcolm Lowry, paru en 1947, adapté au cinéma par John Huston. Ce roman doit son titre aux deux volcans qui dominent la ville de Cuernavaca, au centre du pays. Le roman raconte l'histoire d'un consul britannique alcoolique en 1938, un homme rongé par de terribles remords. Alors, j'avoue, et c'est difficile à dire devant vous, que je n'ai pas lu le livre. Alexandre, à quel moment du roman intervient le passage que vous allez interpréter et que vous a procuré en général la lecture d'Au-dessous du volcan ?
Alors ça, c'est la fin du premier chapitre. Mais il faut comprendre que le premier chapitre de ce roman, qui est le plus dur à lire, tout le monde s'arrête pendant ce premier chapitre. Il faut continuer, c'est après que l'histoire commence. Le premier chapitre, en fait, se situe à la fin de l'histoire où donc il y a le premier chapitre qui est là un an après et où un personnage annexe retrouve les lettres du héros, les lettres qu'il devait écrire à sa bien-aimée et qu'il ne lui a pas envoyées.
Yvonne.
Et ce roman, c'est peut-être lui qui m'a donné le plus de Mexique, tout en étant écrit par un étranger, par un gringo. Il vibre, il est tellurique, ce roman. C'est quelque chose qui fait trembler la bibliothèque quand on le range, c'est quelque chose de, c'est du mercure, je sais pas comment dire, c'est quelque chose de, qui circule dans nos veines enfin, c'est quelque chose de complètement puissant et d'un désespoir, d'une rage, enfin, tout est contenu comme dans un volcan, c'est un truc qui est prêt à exploser, quoi, C'est au-delà du chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé.
Eh bien, je crois que c'est l'heure de l'éruption. Gare aux retombées de lave.
Nuit. Et une fois de plus, le corps à corps nocturne avec la mort. La chambre trépidante d'orchestre démoniaque. Les bribes de sommeil apeurées, les voix à la fenêtre dehors. Mon nom répété sans cesse avec mépris par des groupes d'arrivants imaginaires. Les clavecins de la ténèbre. Comme s'il n'y avait pas assez de vrai bruit dans ces nuits couleur de cheveux gris. Non tel que le fracas déchirant des villes d'Amérique, le bruit de pansements arrachés à d'immenses géants à l'agonie, mais les chiens parias qui hurlent, les coqs qui annoncent l'aube toute la nuit, le battement de tambour, le gémissement qu'on retrouve plus tard blanc monceau de plumes sur les fils télégraphiques aux arrière-jardins, ou volailles perchées dans les pommiers. La peine éternelle qui jamais ne dort du grand Mexique. Pour moi, j'aime traîner ma peine à l'ombre des vieux monastères, ma faute dans les cloîtres, au bas des tapisseries et dans les miséricordes d'inimaginables cantinas, où des clients tardifs à la triste figure et des mendiants cul de jatte boivent à l'aube, dont la froide beauté jonquille se redécouvre en la mort. Aussi, quand tu partis, Yvonne, j'allais à Oaxaca. Pas de plus triste mot. Te dirais-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d'une banquette de troisième classe. L'enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille, ou comment, m'en allant dans ma chambre en l'hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d'égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l'éblouissement de la rue. Et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo. Horreur à la mesure de nerfs de géant. Non, mes secrets sont de la tombe et ils doivent être tus. Et c'est ainsi, parfois, que je pense à moi-même comme à un grand explorateur qui, ayant découvert un extraordinaire pays, n'en peut jamais revenir pour faire don au monde de son savoir. Mais le nom de ce pays est Enfer. Bien sûr, mais dans le cœur. Et aujourd'hui, j'étais à Guanahuac, comme d'habitude, quand j'ai reçu de mon avoué l'annonce de notre divorce. Cela, je me le suis attiré. J'ai reçu d'autres nouvelles aussi. L'Angleterre rompt les relations diplomatiques avec le Mexique. Et tous ces consuls, ceux qui sont anglais, s'entend, sont rappelés au pays. Ce sont de bien braves gens. La plupart, au bon renom desquels je porte atteinte, je suppose, je ne rentrerai pas au pays avec eux. J'y rentrerai peut-être, mais pas en Angleterre, pas en ce pays-là. Alors, à minuit, j'allais dans la plage immense voir à Tomalin, mon ami, le Tlaxcaltecan Cervantes, l'amateur de combat de coq, au salon Ophelia. Et de là, je suis venu jusqu'au Farolito de Parian, où me voici maintenant, assis, dans une petite salle à l'écart du bar, à 4h30 du matin, en train de boire de l'eau de chasse et puis du mezcal. et d'écrire ceci sur du papier à lettres que j'ai chipé au Bella Vista, l'autre nid, peut-être parce que celui du consulat, ce tombeau, me blesse la vue. Je crois connaître assez la souffrance physique. Et c'est le pire de tout, de sentir son âme mourir. Je me demande si c'est parce que ce soir mon âme est vraiment morte que j'éprouve pour l'instant quelque chose comme la paix.
Chères auditrices, chers auditeurs, spectatrices et spectateurs, il s'agissait donc d'Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, adapté par le trio Tex Coco en live sur Radio Nova, en direct du Nouveau Théâtre de Montreuil. Vivons-nous réellement sur cette terre ? Mes amis, l'extrait qui va suivre est un monument, un moment d'histoire que Tex Coco va nous restituer avec une méticulosité d'archéologue, la finesse et le sérieux des plus grands ethnographes, qui un geste qui fait peut-être d'eux les homologues musicaux d'un Jean Rouche. Et cet académisme savant était bien indispensable, puisqu'il s'agira d'un poème ancestral vieux de 7 siècles, écrit en nahuatl.
En nahuatl.
Merci. La langue des Mexicas. Oui, merci. Le poème est signé
Nezahualcóyotl.
C'est ce que je voulais dire. Roi de Texcoco.
Texcoco.
Capitale, je le rappelle, des arts et des lettres de l'Empire aztèque. En substance, ce poème dit ceci. Vivons-nous réellement sur cette terre ? Hélas ! Un bref instant sur cette terre, un instant seulement ici, même le jade se brise, même l'or se rompt, même les belles plumes se flétrissent, un bref instant sur cette terre, un instant seulement ici, ce poème va vous être interprété exactement de la même manière qu'on pouvait l'entonner au XIVe siècle.
Nick and the moment with the wits knock waking at Lee. Here I'm Nick and the Moya, Tidor Nirian Haya. Koya Diva Yam, Ikla Majoya, in Yaya, 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 Hoya, Hoya,
Hoya,
Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Hoya, Oi, 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 oi,
ready to go, go.
Ma non ci fa un flag di pop, sono chico di nico. Te cosa ci mi non sciamani, dove ti capi in lavani. Non questa li posti qui, ma non ci fa un flag di pop, sono chico di nico.
Babito, ready to go, go.
Évidemment, mon introduction ne contenait aucun mensonge. Je ne sais pas vous, mais moi, ce raga immémorial m'a donné faim. Et cela tombe bien, car nous allons maintenant entendre des extraits d'un roman intitulé « Chocolat amer », signé de la Mexicaine Laura Esquivel, sous-titré « Roman feuilleton », où l'on trouvera des recettes, des histoires d'amour et des remèdes de bonne femme. Roman qui démarre au début du XXe siècle et qui relève du réalisme magique, comme vous allez l'entendre. Sorti en 1989, c'est un best-seller, traduit en 35 langues, adapté au cinéma par son mari.
sous le titre « Les épices de la passion ». Chaque chapitre s'ouvre sur une recette de cuisine. Voici celle du champandango et ses effets troublants concoctés par Tex Coco. Si vous êtes venu au Nouveau Théâtre de Montreuil avec quelqu'un que vous aimez, je vous conseille de lui tenir la main.
Y ahora que estamos en la país, les voy a contar un recipe de amor. Es un plato muy rico, saboroso, de Lora Esquivel, y se llama el champandango.
Champandango, 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 champandango.
Ingrédients. Un quart de viande de bœuf hachée. Un quart de crème. Un quart de viande de porc hachée. Un quart de fromage manchego. 200 grammes de noix. Un quart de mole. 200 grammes d'amandes. Cumin. Un oignon. Bouillon de poule, un citron, tortilla de maïs, dos tomates, huile et azúcar. Hachez l'oignon menu et mettez-le à frire avec la viande dans un peu d'huile. En cours de cuisson, ajoutez le cumin moulu et une cuillerée d'azúcar. Quand la viande commence à dorer, ajoutez les tomates hachées, la citronne, les noix et les amandes coupées en petits morceaux. Empoignant la marmite, Tita Furiosa gagna la cuisine. Elle termina le mole avec force ronchonnement et bruit de casseroles. Puis, pendant que le plat cuisait, elle se remit à la préparation du champandango.
Champandango, 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 champandango.
Lorsque la viande est cuite et que la sauce a réduit, faites frire les tortillas dans l'huile, mais pas trop pour éviter qu'elles durcissent. Ensuite, dans un plat allant au four, étalez d'abord une couche de crème afin que ça n'attache pas. Puis une couche de tortilla, une couche de hachis et enfin le mole recouvert de fromage en tranches et la crème. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour remplir le moule. Mettez au four jusqu'à ce que le fromage ait fondu et que les tortillas se soient ramolli. Servez accompagné de riz et de frijoles. Dans la goutte de rosée brille le soleil. La goutte de rosée sèche. Dans mes yeux, les miens, toi tu brilles. Moi, je vis.
Le plus étrange fut ce qui arriva à Gertrudis. On aurait dit que le plat avait sur elle un effet aphrodisiaque. Elle commença par ressentir une chaleur intense dans les jambes. Un chatouillement au bas du ventre l'empêchait de s'asseoir correctement. Elle se mit à transpirer et à se demander quel effet ça lui ferait d'être à cheval dans les bras d'un partisan de Pancho Villa, celui qu'elle avait vu une semaine plus tôt sur la place du village, qui sentirait la sueur, la terre, le danger et l'incertitude d'élever au petit matin la vie et la mort. Elle se rendait au marché avec la servante Chencha lorsqu'elle l'avait vu arriver par la rue principale de Piedras Negras, à la tête d'une troupe dont il était sans doute le chef. Leurs regards se croisèrent. Elle se mit à trembler. Elle lut dans ses yeux les nombreuses nuits passées près du feu, tenaillée par le désir d'embrasser une femme, de l'enlacer, une femme comme elle. Elle sortit son mouchoir et tenta d'effacer avec la sueur ses coupables pensées. Peine perdue. Il se passait quelque chose de bizarre. Elle chercha de l'aide auprès de Tita, mais cette dernière était absente. Son corps était bien sur la chaise, très correctement assis, mais il n'y avait dans ses yeux aucun signe de vie. C'était comme si, par une extraordinaire réaction alchimique, son être s'était dissous dans la sauce, dans le vin et dans chacune des effluves du repas. Tita s'insinuait aussi dans le corps de Pedro, voluptueuse, aromatique, chaude, sensuelle. On aurait dit qu'ils avaient découvert un nouveau mode de communication. Tita était l'émetteur, Pedro le récepteur et Gertrudis l'heureuse élue chez qui s'accomplissait cette singulière relation sexuelle grâce à la nourriture. Pedro n'opposa aucune résistance. Il laissa Tita pénétrer en lui sans parvenir à détacher ses yeux du sien. Tous les autres invités, le regard lubrique, ne tardèrent pas à prendre congé sous un prétexte quelconque. Les jeunes mariés leur en furent reconnaissants. Ils avaient hâte d'aller à l'hôtel. Lorsque Pedro et Tita s'en rendirent compte, seuls restaient John, Chencha et eux. Tous, y compris les employés, avaient filé le plus loin possible pour copuler sans retenue. Certains sous le pont, les plus conformistes dans leur voiture mal garée, mais tous les endroits étaient bons, la rivière, les escaliers, la baignoire, la cheminée, le four d'une chaudière, la vitrine de la pharmacie, la penderie, les cimes des arbres. La nécessité est mère de toutes les inventions, de toutes les positions. Ce jour-là fut un grand jour de créativité dans l'histoire de l'humanité.
Maintenant, chères spectatrices et spectateurs du nouveau théâtre de Montreuil, maintenant que nous sommes toutes et tous parfaitement mis en condition, que des numéros de téléphone sont en train de s'échanger sous les tables, nous allons vous faciliter un peu les choses avec un slow. Un super slow de R&B mexicain sorti en novembre dernier et que l'on doit à une dénommée Girl Ultra, 25 ans, émule de Beyoncé, originaire de Mexico. La chanson s'intitule Discreción. N'hésitez pas à inviter à danser votre voisin ou votre voisine collé serré ou la personne qui vous excite de manière à peu près irrésistible mais que vous ne connaissez pas. Si vous avez déjà envie de faire l'amour, c'est possible. Je précise que les toilettes et les escaliers du nouveau théâtre de Montreuil sont tout à fait disponibles pour vous accueillir avec une hygiène irréprochable. On se retrouve juste après, toujours avec Tex Coco.
que está de más volver a recordar los restos de lo que se fue. No, no lo tomes a mal, te quise de verdad, pero no lo hagas despertar. Porque aún lo veo en tus ojos cafés, todavía sientes que yo soy tu mujer. Me ves tal como ayer. Porque aún lo veo en tus ojos cafés, no se les apague ese brillo. Me ves tal como ayer. Ya no soy tu de lado que me mató y esas manos frías que buscan calor. Y no me veas con esa cara, conozco bien esa mirada. Sé que lo piensas en silencio, me aliento en tu cuello. Que aún lo veo en tus ojos cafés, todavía sientes que yo soy tu
Gracias à ma consoeur Isadora Darcial pour la découverte de ce morceau délicieux. Beaucoup de couples se sont formés sur la piste du nouveau théâtre de Montreuil. J'aperçois plusieurs sous-vêtements masculins pendus aux épines des cactus qui bordent la scène, où je retrouve à nouveau le trio Texcoco. Vous allez nous interpréter un extrait de Pierre de Soleil, publié en 1957, un long poème du Mexicain Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990. Le texte est un voyage initiatique dans lequel le poète chemine comme un aveugle entre des galeries de sons à tâtons par les corridors du temps jusqu'à une rencontre amoureuse. C'est la colonne vertébrale de votre spectacle Mexica. Vous en lisez 8 extraits disséminés. Pourquoi ce texte-là, Alexandre Palu ?
Ce texte, c'est vraiment le long tunnel qui m'a amené à faire ce voyage, quoi, comme si c'était le tunnel sous l'océan Atlantique, qui relie en fait à la fois la culture indigène. Octavio Paz, c'était le précurseur de l'indigénisme, a ramené sur la scène littéraire mexicaine enfin les Aztèques, les figures, les reines de maïs ou les serpents enroulés à l'infini sur eux-mêmes, toute cette esthétique, et la mêler avec la culture du coup hispanique, mais aussi européenne, avec Agamemnon, avec Cassandre, avec Trotsky, avec bon, même si Trotsky est un petit peu mexicain, un petit peu, enfin en tout cas à la fin. C'est le côté épique aussi du voyage, un peu à la Don Quichotte. de ce héros qui se perd dans les couloirs du temps qui, à travers une femme. Voilà, c'est...
Je dois signaler à nos auditeurs que vous tenez en ce moment à la main une mâchoire de cheval.
Dan.
S'agit-il de l'âne, de la monture d'Antonin Artaud quand il se promène dans la Sierra Tarahumara?
C'est exactement, c'est une réplique par contre. Parce qu'il
pas l'authentique, bah, je suis assez déçu.
Ils le vendent aux touristes qui se pointent dans le Sonora.
Ouais.
Ils vendent ça aux touristes en disant c'est celle d'Antonin Artaud.
Voilà. C'est un instrument de musique, peut-être plus logiquement?
Ça s'appelle una quijada. Una quijada, ça veut dire vraiment une mâchoire. C'est une mâchoire d'âne. Ça, c'est plus utilisé au Pérou, mais au Mexique aussi, c'est remonté. Et c'est un instrument ancestral. Voilà.
Vous allez vous en servir pour nous proposer donc un passage de Pierre de Soleil d'Octavio Paz. Parmi tous ceux que vous déclamez dans Mexica, j'ai choisi celui dont l'accompagnement musical est le plus surprenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, señores y señoritas, Octavio Paz.
Je poursuis mon délire, des chambres, des rues. Je chemine à tâtons par les corridors du temps. Et je monte et descends ces degrés. Et je palpe ces parois. Et je ne bouge pas. Je retourne où j'ai commencé. Je cherche ton visage. Je chemine par les rues de moi-même sous un soleil sans âge. Et toi, à mon côté, tu chemines comme un arbre, comme une rivière. Tu chemines et me parles comme une rivière. Tu crois comme un épi entre mes mains. Tu frémis comme un écureuil entre mes mains. Tu voles comme mille oiseaux. Ton rire m'a couvert d'écume. Ta tête est un petit astre entre mes mains. Le monde reverdit si tu souris. En mangeant une orange, le monde change. Vertigineux et enlacé tombe sur l'herbe. Le ciel descend, les arbres s'élèvent. L'espace n'est que lumière et silence. Espace ouvert à l'aigle de l'œil. Passe la blanche tribu des nuages. Le corps rompt ses amarres. L'âme lève l'ancre. Nous perdons nos noms et nous flottons à la dérive entre le bleu et le vert. Temps total. Il ne se passe rien que son propre écoulement heureux. Il ne se passe rien. Tu te tais, tu bats les paupières. Cet instant long comme la vie de sans soleil. N'y a-t-il rien qu'un battement de paupières? Et le festin, l'exil, le premier crime, la mâchoire de l'âne, le bruit opaque et le regard incrédule du mort tombant sur la plaine cendrée. Agamemnon et son mugissement immense, et le cri répété de Cassandre, plus fort que le cri des vagues. Le chacal qui disserte entre les ruines de Ninive. L'ombre que vit Brutus avant la bataille. Moctezuma dans le lit d'épines de son insomnie. Le voyage en charrette vers la mort. Le voyage interminable de Robespierre. Mesuré minute après minute, sa mâchoire brisée entre les mains. Les râles de Trotsky et ses plaintes de sanglier. Madero et son regard auquel personne n'a répondu. Pourquoi me tuez-vous? Pourquoi me tuez-vous?
sonido más lo que miran. Llama la oreja, el sonido llama. Brasa los labios y tizón la lengua. El tacto y lo que toca, el pensamiento y lo pensado. Llama el que lo piensa, todo se quema. El universo es llama, arde la misma nada que no es nada, sino un pensar en llama. Al fin humo, no hay verdugo ni víctima. Le soir du vendredi et le silence qui se couvre de signes. Le silence qui dit sans rien dire. Ne dit-il rien? Les cris des hommes ne sont-ils rien? Ne se passe-t-il rien? Lorsque passe le temps.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Oui, la sorcière, c'est un personnage que j'ai créé, inspiré dans un fait divers que j'ai lu dans un journal local à Veracruz. Il a eu un meurtre dans ce petit village et j'ai trouvé c'est très, très étonnant que personne, même pas les autorités, même pas la police, même pas les journalistes qui écrivent l'histoire, ils n'ont pas douté jamais que qu'une accusation de sorcellerie pouvait être le motif d'un crime. Alors, je suis très étonnée et je pensais en écrire un roman basé sur inspiré sur cette fait
une
divers.
Une fiction inspirée donc de ce fait divers.
Mais du côté de fiction, de la fiction.
Du côté de la fiction. Mmh. Alors qu'elle recevait, je disais, des hommes et des femmes chez elle. Pourquoi? Que recherchaient les hommes qui allaient chez elle? L'amour et les femmes, la confidence?
Très belle question, vraiment. Posée par un confrère de TV5 Monde, la romancière mexicaine et francophone, vous avez pu l'entendre, Fernanda Melchor, née à Veracruz en 1982, à propos de son troisième roman, La saison des ouragans, publié il y a environ un an. Elle part ici du meurtre authentique d'une figure locale d'une ville à l'est de Mexico, une sorcière connue pour les breuvages qu'elle administrait aux femmes, des boissons qui leur permettent d'avorter, mais aussi des filtres retenant les amants et éloignant les jaloux. Elle était connue également pour rémunérer les jeunes hommes en quête de plaisir sexuel, invités dans une demeure convertie en un lieu de fête et de débauche. Le roman se demande qui en voulait à cet être fantasque et terrifiant, une femme très grande et très maigre, avec un trousseau de clés tintant dans des mains aussi pâles que des crabes lunaires. Ce drame permet à Fernanda Melchor d'évoquer la réalité brutale du Mexique contemporain, sa misère et sa violence, notamment vis-à-vis des femmes. C'est un livre qu'une amie vous a recommandé, Alexandre, mais qui ne figure pas encore au générique de votre spectacle Mexica. C'est donc une création inédite que nous allons entendre pour conclure cette émission en compagnie de Tex Coco.
Il s'est souvenu qu'une fois, de nombreuses années plus tôt, alors qu'il était très jeune et vivait encore avec sa mère chez sa grand-mère Mircea, à Gutiérrez de la Torre, une voisine, une dame déjà âgée qui habitait dans la maison d'à côté, avait demandé qu'on change les canalisations de sa maison. Et les hommes qui avaient creusé devant sa porte d'entrée avaient trouvé quelque chose que sa grand-mère avait appelé un travail. Un travail de sorcellerie, una brujería. C'était un grand flacon de mayonnaise avec un immense crapaud flottant à l'intérieur, un crapaud mort et en partie décomposé qui nageait dans un liquide trouble avec deux têtes d'ail, quelques bouquets d'herbe et allez savoir quelles autres cochonneries que Munra n'était pas parvenu à voir car sa mère lui avait caché les yeux et l'avait éloigné. Et malgré cela, il avait commencé à sentir une migraine effroyable. Et sa grand-mère avait dû le purifier avec des branches de basilic et un œuf qu'elle avait passé sur son front avant de le casser Or il était complètement pourri à l'intérieur. Puis elle lui avait expliqué que ce truc si laid que les hommes avaient déterré était un travail. Qu'une personne méchante avait mis là pour jeter un sort au voisin. Que grâce à ce maléfice puissant, le crapaud entrait dans le corps de la personne et commençait à manger ses organes, à la remplir de choses immondes jusqu'à la tuer. Munra, qui devait avoir à l'époque 5 ou 6 ans, ne se souvenait pas très bien comment, mais il avait appris par la suite que le mari de cette femme était mort quelques mois plus tôt d'une maladie dont personne ne connaissait la nature. Un truc au foie, à ce qu'on disait. Munra avait souffert encore longtemps de ses migraines que la grand-mère lui soulageait en passant du basilic sur son corps et en frottant ses tempes avec de l'alcool. Et parfois, il avait du mal à dormir car il pouvait s'empêcher de penser qu'en jouant ou en allant faire une course, il avait peut-être foulé la terre au-dessus de ce travail enfoui. Qu'à l'instant même, cet animal répugnant était en train de lui dévorer le cerveau. Il aurait peut-être bientôt sa peau, même si avec le temps, le souvenir de cette angoisse s'était estompé. Si bien qu'il s'était souvenu de tout cela, que lorsqu'il avait vu le trou que le gamin avait creusé avec ses propres ongles, ayant la sensation d'être encore prisonnier de ce rêve étrange dans lequel il était déjà mort et devenu une âme en peine. Alors il a redemandé au gamin ce qu'était que cette chose. Un travail de sorcellerie, il n'y avait pas d'autre explication. Pour s'assurer que le gamin pouvait l'entendre et confirmer qu'il n'était plus prisonnier de cet horrible rêve. Mais Louis Smith se contentait de le regarder l'air hébété, comme s'il ne le reconnaissait pas. Munra avait alors été obligé de se pincer l'oreille pour vérifier qu'il était bien réveillé, qu'il n'était pas mort. Puis, il s'était senti un peu mieux. « Fais brûler ce truc !» avait-il ordonné au gamin. « Fais brûler ce truc !» Fais brûler ce truc! Fais brûler ce truc!
Nova Book Box? C'est comme un jukebox, mais avec des livres.
En septembre dernier, les éditions des Équateurs ont publié un récit intitulé « Au pays des rêves noirs », pour lequel un écrivain français de 30 ans, Félix Machorez, est parti seul sur les traces d'Antonin Artaud dans la Sierra Tarahumara. Son livre se termine par ces mots. Mon attirance pour le mystère, l'anomalie, la littérature, la maniaquerie cosmique, les saints, l'autodestruction, les fauteurs de troubles, les rebelles authentiques, le mysticisme de l'échec, le mysticisme tout court, les chercheurs de délire, les héros qui perdent à la fin. Tout ça m'a amené à passer 41 jours dans la Sierra. Ce sont les dates inscrites dans mon carnet qui me l'apprennent, car je reviens d'un monde où le temps, la chronologie et les jours qui défilent ne veulent rien dire. Si je suis resté aussi longtemps à parcourir ces vallées et ces hauts plateaux, ce n'était pas pour l'attrait de l'expédition, ni le besoin d'adrénaline, ni un certain désir d'accomplissement extérieur, mais que j'avais honte d'apparaître comme un dégonflé vis-à-vis d'Artaud et son aventure. Si je suis resté aussi longtemps, c'est aussi parce qu'une force interne m'attachait à la Sierra. Je la sentais grandir et agir en moi comme une emprise. J'espérais tant de révélations de cette terre. J'en ai finalement eu une autre, insoupçonnée, la guérison de mon âme par la foi.
Elle seule pouvait bannir la forme inférieure de vie qui pourrissait en moi. J'ai attendu ardemment que de la décomposition germe la fleur du soleil. La, 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 la. J'aimerais que l'on fasse un triomphe pré-hispanique aux trois cocos de Texcoco. Flavien Ramel, Guillaume Brouillard, Alexandre Palure. Votre spectacle Mexica sera visible le 19 mai au Lavoir Moderne à Paris. Le 5 juin, à Paris aussi, au festival Tournée Générale dans les bars du 12e arrondissement. On vous retrouvera ensuite au festival d'Avignon, au théâtre du Train Bleu. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabeau, avec l'aide de Nabil Jaffa. Deux personnes qui d'ailleurs ont hésité longuement à mettre un sombrero aujourd'hui avant d'y renoncer. Merci aux équipes du Nouveau Théâtre de Montreuil. En particulier à Arthur pour la prise de son. On se retrouve dimanche prochain de 12h à 13h. Et d'ici là, nom de Dieu, apportez-nous de la tequila.
Je veux continuer. Je veux continuer. Je veux continuer. Aller plus loin, je ne peux pas. L'instant s'est précipité dans un autre et un autre. J'ai dormi les rêves d'une pierre qui ne rêve pas. Et au bout d'années pareilles à des pierres, j'ai entendu chanter mon sang emprisonné. La mer chantait avec une rumeur de lumière. Une à une, les murailles s'écroulaient, toutes les portes cédaient. Et le soleil courait au pillage sous mon front. Décoller mes paupières fermées, détacher mon être de son enveloppe, m'arracher à moi-même, me séparer de mon brutal sommeil. Le siècle de pierre et sa magie de miroir faisaient revivre un saule de cristal, un peuplier d'eau, un haut jet d'eau arqué par le vent, un arbre bien planté, quoique dansant, un cheminement de rivière qui s'incurve, avance, recule, vire et arrive toujours.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.